Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. J'enregistre cet épisode le lundi 10 janvier, au soir, dans la maison. Je commence à recevoir pas mal de messages, là, de notifications de gens qui ont partagé mon livre, de gens qui l'ont précommandé. Et ben, l'épisode va parler du livre, en fait. Je ne vais pas couper cet épisode, je ne vais pas le monter. Je vous le dis tout de suite. J'ai envie que les choses soient telles qu'elles sortent, là, sans arrangement. Voilà, donc désolé si c'est peut-être un peu moins agréable que d'habitude. Mais voilà, donc mon livre, « Tu vas être papa », sort le jeudi 13 janvier, jour de sortie de cet épisode. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Il va y avoir une première partie où je vais être tout seul. Et dans une deuxième partie, je vais avoir le plaisir d'échanger avec Lucie Drouin, des éditions First, qui a été mon éditrice qui m'a suivi de près pendant l'écriture et le travail sur ce livre, et avec Blachette, qui est la talentueuse illustratrice avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur ce livre. Je les remercie beaucoup pour ce moment d'échange qui a eu lieu pendant qu'on faisait la journée de dédicace pour les exemplaires pour les médias et la presse. Alors ce livre, c'est quand même toute une histoire. Déjà, premièrement, il y a un an, on m'aurait dit que j'allais avoir un livre qui paraît là. J'aurais clairement dit, non mais trop pas, tu sais. C'est trop pas. Non, je crois pas. En fait, je crois pas parce que c'était pas du tout dans mes projets. Et parce qu'il y a un an, je recevais aussi la première proposition pour un livre qu'on faisait. En fait, dans le premier semestre, enfin un petit peu fin 2020 aussi. En fait, disons que de décembre 2020, je crois, à mai 2021, j'ai eu 4 propositions pour un livre de maison d'édition qui me demandait toutes la même chose, c'était de faire un livre sur moi. Et en fait, ça ne m'intéressait pas. C'est pas que ça me dérange de parler de moi, hein, comme tous les gens, et principalement les mecs, j'aime bien ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est en parler, quoi. Donc je trouvais ça... J'aime bien passer dans des podcasts, j'aime beaucoup discuter avec des gens, les gens qui m'ont invité, je les remercie d'ailleurs beaucoup. C'est toujours des super moments, mais en fait, je voyais pas l'intérêt de faire un livre sur moi. Enfin, c'était beaucoup d'énergie pour quelque chose qui apportait peu aux problématiques que je soulève, et j'avais répondu assez sèchement d'ailleurs à ces maisons d'édition que si elles pensaient que j'allais accepter un tel projet, c'est que j'avais quand même dû très très mal communiquer sur mes intentions et sur mon positionnement. Donc j'étais pas super content de moi et de la proposition. Et puis les éditions First m'ont contacté à la fin du printemps 2021 en me disant voilà, on voudrait vous faire une proposition. Alors, je le reconnais, je voudrais parler à Rosemary et à Lucie, donc les éditrices chez First. Si vous écoutez cet épisode, je reconnais que j'ai dû être un peu sec, quand même. L'accueil n'a pas dû être génial au premier moment. Et donc, elles insistent un peu pour faire une première réunion. Et elles m'expliquent qu'elles veulent que je parle au papa. Et là, déjà, ça m'interpelle un peu plus. Je me dis, tiens, ok, et puis, pourquoi faire? Pourquoi moi? Pourquoi, voilà, je commence à poser ces questions-là. Parce qu'en plus, faut pas se mentir, je voyais pas trop... Enfin, si, je sais que j'ai des trucs intéressants à dire, je vais pas faire preuve de fausse modestie, hein, désolé. Mais dans un livre, en fait, c'était pas vraiment mon exercice, c'était pas du tout l'exercice dans lequel j'étais à l'aise, et justement, c'est ce qui va me servir après. Mais en tout cas, je me disais, tiens, mais c'est marrant, enfin, il y a d'autres papas qui ont tellement de choses à dire que, voilà, bon, bref. En tout cas, je prends le point et on se met d'accord, on se dit, ok, si tu nous fournis un plan, et si toi le plan te plaît, et si nous il nous plaît, on voit ce que ça donne. Et donc, je rédige un plan en 4 parties, que je vous laisse découvrir dans le livre. Non, en fait, il y a 4 parties, allez, je vous le dis, il y a 4 parties. La première partie, c'est prendre conscience. La deuxième partie, c'est accueillir l'enfant. La troisième partie, c'est prendre sa place. Et la quatrième partie, c'est accompagner l'enfant. Ce qui est rigolo, c'est qu'en acrostiche, ça fait papa. Voilà. Et donc, c'est écrit comme ça dans le livre. Et moi, ça m'a fait marrer. Parce que j'adore les jeux de mots pourris. Voilà. C'est comme ça. Et Dieu sait que ma compagne pourra en témoigner, la pauvre. J'adore les jeux de mots pourris. Et en tout cas, j'ai adoré faire celui-là. Et donc, je leur soumets le plan qui était apparemment assez détaillé, et elles aiment beaucoup. Ah tiens, elles aiment beaucoup. Super. Bon, bah cool. Et donc, là, on est au mois de juillet, je crois, et elles me proposent de fournir les 10 000 premiers signes. Alors oui, alors, truc que j'ai appris, quand on écrit un livre, on compte en signes. Et un espace, c'est un signe. Un caractère, c'est un signe. Un point, c'est un signe. Voilà. Donc en fait, on parle en signes. Et donc, elle me demande de faire les 10 000, voilà, un G à peu près à 10 000 signes pour essayer de voir ce que ça donne. Et donc là, ça nous amène à début août où j'ai écrit les 10 000 premiers signes. Et ça leur a beaucoup plu. Et donc, j'ai validé le projet début août. Voilà. Sachant que je savais déjà que j'allais devoir fournir 250 000 signes pour le 15 octobre 2021. Et ce qui est très très drôle, c'est que c'était juste avant nos vacances qu'on a fait dans notre tente de toit trop cool là, on venait de l'avoir. Enfin voilà, j'étais hyper content de ces vacances là. Et en fait, pour le coup, je leur ai dit ok, mais de toute façon, je vais pas bosser dessus avant le retour des vacances. Donc on part en vacances. On part en vacances et retour des vacances, ma compagne reprend le travail et moi je m'accorde encore une semaine avec Sarah, voilà, juste à kiffer, à aller me baigner, machin et tout. Et donc j'arrive, je crois que c'est la dernière semaine d'août, avec 250 000 signes à sortir pour le 15 octobre. Et j'avoue que c'était un peu la panique. Alors avant de continuer de parler de tout ça, je tiens vraiment à remercier d'abord Noëlla, ma compagne, et aussi ma mère et la famille, parce que j'ai été beaucoup moins disponible. J'ai travaillé comme un dingue pendant ces 2 mois à peu près, un peu moins de 2 mois. Et comme vous le savez, on est en instruction famille. Voilà, j'ai mis en pause pas mal de trucs. Je pense aussi à mes clients en tant que thérapeute, dans mon activité de thérapeute. Je pense aussi à mes clients. J'ai mis beaucoup de créneaux en pause. J'avais beaucoup diminué les créneaux. Et je sais que j'avais beaucoup de demandes. Donc voilà, donc j'ai pu en réouvrir plus depuis. Mais voilà, ça a été compliqué et ça m'a demandé aussi énormément d'énergie. Donc voilà, mais grâce à cet effort collectif porté, je pense, par la passion et l'amour, ça a été génial. Et ce qui a été top, ça a aussi été de se dire, tiens, comment j'écris, quoi? Vraiment, comment j'écris? Et puis en fait, moi, il y a un truc que j'ai compris en démarrant le podcast, parce que vous devez savoir une chose, c'est que quand j'étais plus jeune, et même il y a quelques années, je me disais, vas-y, moi, je vais écrire un blog, je vais écrire un livre un jour, ta ta ta. Et en fait, quand j'ai démarré le podcast, je voulais faire un blog en même temps. Vous savez, le site papatriarca.fr. Dessus, il y a des épisodes transcrits maintenant. Et il y a un article de blog. Et à la base, je voulais faire un podcast et un blog. Mais en fait, je me suis vite aperçu que mon talent d'écriture, il n'était pas génial. Et donc, je me suis dit, mais comment je me débrouille avec ça? Et finalement, en fait, comment est-ce que j'ai écrit ce livre? Ben, j'ai fait ce que je sais faire. J'ai discuté. J'ai imaginé avoir un père en face de moi, avoir un ami, avoir un inconnu, avoir un collègue. Quels propos je pourrais tenir? Comment je pourrais présenter le truc? Comment est-ce que je pourrais présenter le truc sans qu'il se braque? Comment est-ce que je pourrais présenter le truc? Comment est-ce que j'en parlais en entreprise? Comment j'en parle dans ma famille? Comment j'en parle aux gens que je rencontre, finalement, de la paternité, de la parentalité? Et c'est ça, en fait, que j'ai fait. J'ai parlé. J'ai parlé, j'ai retranscrit, j'ai écrit. Des fois, les moments où j'étais le plus productif, on va dire, des fois, j'ai réussi à écrire en même temps que je parlais dans ma tête. Et ça fait un peu fou hein, de dire ça. Mais bref, en tout cas, ça marchait bien. Comment j'ai fait aussi? J'ai beaucoup ritualisé. J'en avais parlé avec André Stern. Et vous connaissez l'importance des rythmes et des rituels pour l'enfant. Bah, s'il y a bien un truc qu'on peut se dire, c'est que on est tous et toutes encore des enfants. Et que les rythmes et les rituels, ça marche très très bien avec nous. Et donc, j'ai rédigé comme ça, voilà. Alors souvent, on recherchait des sources, hein. J'ai relu des livres, j'ai réécouté des podcasts, j'ai relu beaucoup, beaucoup d'études. Voilà, pour être sûr de fournir une information fiable, autant que faire se peut. Et donc, j'ai rédigé ça, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Et en même temps que je rédigeais la partie 2, on commençait les corrections sur la partie 1 parce qu'il fallait aller vite. Le livre devait sortir en janvier 2022 et il sort en janvier 2022. Donc il fallait aller vite. Et en même temps, on commence à travailler le travail d'illustration avec Blachette et on fait des réunions visio, on s'envoie les briefs, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on retravaille le truc. Je tiens à souligner et à le dire dans cet épisode l'incroyable. Je vais vous dire un truc. Quand on m'a proposé de travailler avec Blachette, moi Blachette pour moi, enfin c'était le genre de personne avec qui, enfin qui était tellement, enfin franchement j'idéalisais tellement son travail et je l'idéalise toujours. Je trouve génial ce qu'elle fait. Mais voilà, pour moi, Blachette, c'est celle qui avait écrit un livre avec Rukaya Diallo, des gens que j'adore, que j'admire. Et tout à coup, je me retrouve à travailler avec elle et à la voir avec une remise en question totale, une acceptation complète de toute remarque, à tous les niveaux, tout le temps, partout. Enfin, voilà, j'étais bluffé de cette simplicité dans les échanges, de cette humilité, de cette curiosité, de cette capacité à remettre parfois des points de vue en question. Voilà, ça a été incroyable de travailler avec Blachette, ça a été vraiment un plaisir, c'était facile, c'était simple. Et voilà, moi j'ai adoré en tout cas. Et donc voilà, tout ça en fait s'entremêle. Le moment où j'écris, le moment où je travaille les corrections, le moment où Blachette nous fournit les illustrations, et j'ai un peu d'émotion. Et je voulais aussi souligner le travail de Lucie Drouin, donc l'éditrice de chez First. J'ai découvert ce que c'était le travail d'éditrice, enfin en tout cas avec tout ce que moi je fournissais. Dites-vous une chose, c'est que la matière que j'ai fournie, elle a été complètement transformée. Pas dans le fond, et finalement assez peu dans la forme, dans le déroulé, mais dans la structuration de la pensée, dans la clarification de la pensée, dans la structuration des données, que tout prenne sens. Vraiment, ce travail est incroyable. Je n'avais jamais vu ça, et j'ai trouvé ce travail incroyable. C'est vraiment... Je suis l'auteur, ok. Mais je vais vous dire une chose, je pense vraiment, moi de ce que j'ai vécu avec Lucie Drouin, je pense vraiment que son nom devrait être en co-autrice, très clairement. Ou au moins à nos côtés, voilà, je trouve, voilà, peut-être un truc à réfléchir pour plus tard, que les éditrices qui ont bossé, je pense qu'il y a vraiment une reconnaissance à faire et à avoir sur les ouvrages, parce qu'il y a un travail génial, monstrueux, et qui sert vraiment la pensée que j'ai fournie en tout cas. Et parfois avec... Enfin, en tout cas toujours avec beaucoup de franchise, j'ai adoré les moments où elle m'a dit que c'était génial, les moments où elle m'a dit que ça c'était moins génial. je me rappelle très bien de la partie 3 que j'avais envoyée, et où elle m'a dit, écoute, mot pour mot, elle me dit, Cédric, ta pensée est fascinante, mais là t'as fait un essai et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que j'ai répondu un truc avec énormément de sources, enfin, intéressant certes, mais franchement pas bouffable quoi, c'était compliqué, donc forcément j'ai enlevé des sources, j'ai machin, voilà, j'ai fait beaucoup de choix dans les sources, sachez-le, sachez que tout ce que j'écris là-dedans est sourcé en fait, mais que j'ai pas pu afficher toutes les sources parce que ça n'est pas un essai, donc j'ai gardé forcément des sources de côté. Voilà, donc ça c'est comment ça s'est passé, avec beaucoup de stress et de... Il faut le dire, il y a eu du stress, hein, il y a eu beaucoup de pression, j'ai pas très très bien dormi. Et puis moi, je m'étais vraiment mis cette pression, vous voyez, de me dire, hein, faut que je respecte mon contrat, quoi. Et en toute transparence, hein, mes éditrices, ça m'ont dit, mais c'est Cédric, si c'est pas le 15, si c'est deux semaines après, tu vois, on va pas pencher une pendule, tu vois. Mais elles ont pas dit chier une pendule, mais bref, vous avez compris. Et c'était cool, mais je voulais faire ça. Finalement, j'ai rendu le manuscrit le 12 octobre. Et le 12 octobre, c'est aussi le jour où j'ai perdu un ami qui s'appelle Yann. Et quelque part, je sais pas, je me dis que c'est aussi pour lui, voilà. Et donc je rends le manuscrit, et puis je vous en parle sur les réseaux. Et je reçois beaucoup d'amour en même temps, donc c'était génial. Et puis voilà. Et puis, y a une autre dimension qui s'est faite, c'est que dans nos échanges d'été, avant de commencer la rédaction, dans nos échanges sur ce que devait être un livre pour les pères, sur notre vision d'un livre pour les pères, on était aussi d'accord sur quelque chose avec mes éditrices. C'était que... Enfin, moi, j'ai vraiment amené le fait que je pense que les mecs ont besoin d'entendre d'autres mecs parler entre eux des sujets. Et elles ont adoré l'idée. Elles ont adoré l'idée de se dire, mais ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est là où on s'est dit, tiens, mais à la fin de chaque partie, on va essayer de mettre un audio, en fait, une discussion entre pères que moi, j'aurais avec d'autres pères. J'ai pas tergiversé 15 ans hein, sur le choix des pères, et je remercie beaucoup les pères qui m'ont accompagné sur ce projet. Donc je remercie Fabrice Florent pour la partie 1. Et je vous invite à l'écouter parce qu'on dit des choses d'une manière pas souvent entendue avec le franc-parler de Fabrice. Sur la partie 2, c'était avec Fred, Frédéric Forillon, que vous connaissez peut-être sous le compte Vieux Machin Bidule, sur Instagram. Et Fred, il a parlé, pour une des rares fois où il en a parlé, avec le public en tout cas, de la dépression du postpartum que sa femme a traversée, et de comment est-ce que lui, il a vécu en tant qu'accompagnant, en tant que témoin du moment. Et c'est vraiment très très fort. Sur la partie 3, c'est avec Samuel Clos, que vous avez connu sous le compte Samuel Gaspard, c'est comme ça qu'il est dans le livre, maintenant c'est Samuel, CLT sur les réseaux. Je cache pas que j'ai beaucoup d'affinités idéologiques avec Samuel aussi. Et en fait, ce qu'il y a de génial, c'est cette discussion, elle est vraiment à bâton rompu sur son rôle de père au foyer qu'il a tenu. Et vraiment, il y a des réflexions qui sont à la fois profondes et très efficaces, donc merci. Et sur la partie 4, j'ai eu l'honneur encore une fois de discuter avec André Stern, d'une manière tellement ouverte et débridée, on peut dire, que c'est très cool. Je suis vraiment très très heureux et fier du travail réalisé sur ce livre, que ce soit au travers de ce que moi j'ai pu fournir, mais aussi du travail collectif qu'il y a autour, au travers du fait de se dire voilà, on l'a fait quoi. On a démarré un projet un peu fou de le faire dans ce timing là, mais on l'a fait. Et c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et là, de le voir dans vos mains, enfin, pour ceux qui l'ont reçu, bien sûr, mais de le voir dans vos mains, d'avoir des retours. Je pense aussi au bêta lecteur que j'ai eu, parce que forcément, c'est un livre aussi que j'ai transmis à des gens avant l'apparition. Certains passages aussi, des fois, je suis allé voir des gens que j'apprécie pour leur demander, tiens, t'en penses quoi? Est-ce que c'est bien tourné? Et c'était cool parce que ça marchait, quoi. Et je pense à des gens aussi à qui je l'ai envoyé, donc. Et des gens experts, je pense à notamment Ingrid Bailly aussi, qui l'a lu de là-bas au Canada et qui l'a beaucoup aimé. Voilà, je pense à mes amis qui ont des enfants depuis longtemps, en tout cas plus longtemps que moi, qui m'ont dit putain, ça amène des réflexions dans notre couple pour venir peut-être réparer des blessures qu'on avait depuis la petite enfance de nos enfants, des choses qu'on n'avait pas osé se dire, des choses ou des points de vue qu'on n'arrivait pas à échanger ensemble, et ça a amené une cohésion. Et je trouve ça incroyable. En tout cas, ça, c'était un effet totalement inattendu. Voilà, je ne vous cache pas que ce livre, je l'ai aussi écrit. C'est très égoïste hein, ce que je vais dire, mais je l'ai aussi écrit pour ma fille, pour pouvoir lui dire que j'ai fait de mon mieux. Si jamais c'est toujours la merde dans 15 ans, dans 20 ans, que j'ai fait de mon mieux, quoi. Et aussi pour les autres. Pour les autres, pour les pères, parce que franchement, je le dis, encore une fois, sans fausse modestie, c'est un concentré et une synthèse d'années de réflexion, de compréhension et de militantisme que je mets entre vos mains, et j'espère vraiment que ça amènera beaucoup de positif. En tout cas, j'y crois. Voilà, je pensais pas pleurer autant, mais voilà, merci beaucoup. Je vous laisse avec la partie avec Lucie et Blachette. Et j'espère beaucoup que ce livre vous plaira. Salut.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Lucie.
Bonjour.
Salut Blachette.
Salut Cédric.
Je suis ravi de vous recevoir à ce micro. Vous ne les voyez pas, mais il y a un petit peu de tension dans le regard. Donc on va essayer de détendre tout ça. Alors, moi, j'ai déjà expliqué à quel point j'ai adoré ce projet, à quel point ça m'a porté, pourquoi et comment je l'ai vécu. Moi, ma première question, elle est pour toi, Lucie, c'est pourquoi moi?
Alors, si j'ai une petite anecdote, c'est que donc avant même de travailler chez First, je suivais ton podcast. Je t'ai découvert, je crois, à travers les couilles sur la table ou la matrescence, ou en tout cas les thématiques que tu abordais, je les ai trouvées là. Et donc, j'ai écouté tes podcasts, j'ai commencé à travailler chez First, et du coup, c'était juste une logique de vouloir travailler avec toi, par la suite, quoi.
D'accord. Et sur ce livre-là, comment c'était vraiment moi la première cible ? Vas-y, tu peux balancer, tu sais, je vais pas me vexer.
En fait, on avait vraiment envie de travailler avec toi parce que ça nous touchait la manière dont tu abordais certaines thématiques. Donc on avait envie de travailler avec toi, forcément sur les papas. Et dans cette nouvelle collection qu'on est en train de sortir, sur un truc hyper accessible, hyper abordable, donc tu as la voix qu'il faut et tu portes des messages qui sont pas seulement pratiques ou théoriques, tu mêles des choses vraiment, tu mêles les deux et franchement on voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre, après forcément ça dépendait que de toi, que de ta réponse, mais je pense qu'on n'aurait jamais réussi à avoir quelque chose qui ressemblait à ça avec quelqu'un d'autre. Qu'on aurait peut-être essayé.
Ça me fait beaucoup de bien, cette interview. Et comment est venu le choix de Blachette ?
Alors, Blachette, on avait envie d'illustration d'un univers qui était tout aussi accessible que toi, que ta façon de parler, etc. On voulait parler aux jeunes parents et donc on avait envie de sortir des dessins de presse, des trucs qu'on voit un petit peu partout, avec quelque chose d'un petit peu particulier et que tu as. Enfin, tu as un style vraiment qui t'appartient, donc voilà.
Ok.
Je suis contente.
Et toi, Blachette, pour le coup, comment ça s'est passé quand tu as été contactée, Est-ce que tout de suite tu t'es dit ouais vas-y ce projet samedi, est-ce que tu t'es dit ouais bof attends les parents, les enfants là c'est un peu chiant quand même.
Et ben je...
Bon. Action.
Action. Donc comment je l'ai vécu en fait quand Lucie est venue vers moi pour me proposer le projet, je me suis dit pourquoi moi parce que c'est vrai dans ce que je propose en termes d'illustration il y a jamais de gosses et mais après l'idée ne me déplaisait pas non plus parce que j'aime bien sortir des sentiers battus et je t'avais déjà vu passer plusieurs fois dans mon fil d'actualité. Du coup, ton nom ne m'était pas inconnu. Je me suis renseignée, j'ai mené mon enquête. Non, j'ai écouté quelques podcasts, etc. Et du coup, j'aimais bien ton état d'esprit, ton côté engagé, qui me rappelait le mien aussi. Donc du coup, c'était un peu une évidence, même si c'était pas du tout mon créneau de base de faire ce type d'histoire, d'illustration. Donc ça s'est fait comme ça, tout simplement.
C'est chouette, tu t'es dit tiens je vais aller explorer ça.
Exactement, et au final belle aventure.
Ouais,
belle
ça
aventure.
Va
ouais,
t'es
kiffé.
Pas trop déçu, c'est bon.
Non, du tout, bien au contraire.
Non, mais pourquoi on sait pas.
Non, bien au contraire.
Et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé dans nos discussions, parce que on a Lucie qui est au micro, mais on a aussi travaillé avec Rosemary Di Domenico. Et dans nos discussions, nous, quand on a parlé de l'illustratrice, il y avait aussi le souhait d'avoir une illustratrice qui n'a pas d'enfant ou qui n'a pas travaillé sur la parentalité. Tu peux nous expliquer l'origine de cette réflexion, de ce souhait ?
Ce qui était intéressant, c'était la rencontre entre vous deux, entre vos deux univers, je pense, et toute la réflexion qui découlait, du coup, de nos rencontres. Et quand on parlait d'une idée, de confronter vos deux visions de la chose. Et qu'est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant imagine dans la situation présente et toi, tu nous disais attention, mais là on n'a pas pensé à ça. Et ça, en fait, c'est peut-être pas exactement ce qu'on voudrait dire. Et du coup, c'est cette réflexion-là qui était très intéressante et qui permettait aussi, du coup, de parler aux jeunes parents qui ne savent pas, qui certaines personnes vont acheter ce livre et elles n'auront pas encore d'enfants, donc ils vont découvrir aussi ces scènes atypiques et seront aussi surpris que nous tous quand on en discutait. Mm.
Toi, ça t'a fait quoi pour le coup de découvrir certains sujets comme ça, parce que je pense que m'autorise à penser que tu as découvert des sujets.
Oui, non, oui, non, mais complètement. On fait ça. Non, c'est parce qu'après, comme j'ai pas d'enfant, c'est vrai que j'imagine des choses qui étaient peut-être fausse, sûrement fausse, etc. Là, j'ai pas d'exemple particulier en tête, sûrement ça va venir après. Mais après, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, j'ai une peur de la maternité, paternité, etc. Enfin, c'est...
Ah ouais,
ouais, c'est... Je voulais pas de gosse. Et là, je réfléchis.
Hein?
Non, c'est pas vrai.
Arrête.
Non, mais, je veux dire, j'avais pas une idée. J'avais une idée arrêtée, on va dire, de tout ce qui était autour de la maternité, de la paternité. Et c'est vrai que ce livre, ben, répond à beaucoup de questions, même à des personnes qui, ben, sont freinées à l'idée d'être papa, d'être maman. Ben, c'est, ça aide, je trouve. Ouais. Non, il y a eu beaucoup de
vas-y,
sujets.
Vas-y, ça me touche
qui...
gavé ce que tu dis. Ça me touche gavé.
Non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais sérieusement, il y a des sujets, ben, quand on a des idées freinées, et après on se dit, ah ben non, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Il y a des solutions à tout. Et de toute manière, si on est actuellement là aujourd'hui depuis des milliers d'années, c'est que c'est pas si compliqué non plus. Mais ben, je sais pas, je me perds un peu dans mes mots, mais voilà.
Non, mais c'est. Moi, je trouve ça. Bah, déjà, ça me touche beaucoup que tu l'aies vécu comme ça. Et je trouve qu'il faut que tu fasses la promo du livre. Mais non, mais c'est enfin, franchement, c'est un super retour que tu me fais. Parce que je t'avoue que c'est aussi un petit peu un des objectifs. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le fait d'avoir une illustratrice qui a pas d'enfant ou qui a pas déjà traité de parentalité. C'était justement ce croisement entre moi, ce que je sais, ce que je voulais transmettre. Et toi, ta vision, tu vois, qui découvre, en fait.
Mmh.
Et parce qu'en fait, le public qui est visé en premier, bon, OK, c'est des papas, mais c'est aussi des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui vont être parents. Donc, ils se posent plein de questions, qui ne savent pas. Et moi, je trouve que ton bah, pour le coup, l'apport, justement, de tes illustrations, ça a été aussi ça. C'était aussi d'avoir cette vision de, bah, de toute fraîche sans gosse, quoi. Tu vois, parce que... Parce que nous, on est quand même un peu fatigués des fois après avec les enfants, mais et c'était vraiment super intéressant de travailler là-dessus. Et moi, je suis hyper touché que ça puisse amener des réflexions comme ça.
Ouais,
donc, il me tarde d'avoir les autres retours.
Ouais.
Et toi, est-ce qu'il y a... Alors, je sais que tu as dit que tu n'avais pas d'exemple, mais peut-être que ça va te revenir. Surtout, n'hésite pas à nous couper si ça te revient.
Bien sûr.
D'une pratique qui t'a interpellé. Je sais qu'on a travaillé sur différents sujets, tu vois, genre la DME,
yes, j'en ai
genre...
Une. Bah, c'est celle-ci. La DME,
ouais.
Le fait que l'enfant apprenne à manger tout seul. Enfin,
ouais.
Ouais, non, là, je trouvais ça. Au début, je me disais, c'est complètement lunaire, ils sont perchés. Je sais quoi encore ce truc. Et non, et après, en étudiant la chose et ben, en faisant l'illustration sur ce thème-là, etc., ben, je me suis dit, ah ouais, non, mais. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Déjà, je connaissais pas forcément. Quand tu m'en as parlé à premier truc, j'ai rien dit, mais dans ma tête, je me suis dit « Oula !» Et en fait, non, agréablement surpris. Et pareil, ça revient dans ce que je disais juste avant, qu'on apprend des choses et que... Enfin, je me répète, mais...
Ouais, mais vas-y.
Voilà.
Tu peux. Il faut savoir, faut que vous sachiez aussi que Blachette, elle a eu des vidéos de ma fille pendant qu'il faisait les DME et qu'il faisait des gags
ouais.
Réflexes. Et donc, elle a vu ma fille... déglutir, je me rappelle très bien de vos têtes à toutes les deux d'ailleurs,
ouais.
Quand j'ai montré cette vidéo en visio et les bébés nageurs aussi, ça vous avait
exact,
marqué, je crois.
Oui, les bébés nageurs, ouais.
Ça vous avait marqué, ça. Et toi, Dulcie, t'as découvert des trucs en travaillant sur ce sujet?
Ah bah sûrement, là comme ça forcément, rien qui va venir.
Alors faut savoir que cette interview n'a absolument pas été préparée, donc forcément je les prends à froid sur tous les sujets.
Ouais. Non, je pense que c'est surtout parce qu'il y a pas mal de moments où tu repars sur l'histoire de la parentalité ou de la paternité ou de l'éducation genrée, etc., d'où ça vient, etc. Et là, je pense qu'il y a eu des moments où on sait plus ou moins, mais sans savoir, et t'apportes des ressources et plein de choses qui bah, m'ont fait me rendre compte que j'avais raison de savoir certains trucs sans avoir les ressources nécessaires. Et je pense que c'est plus là-dessus ouais, où j'ai été, où des fois je lisais le manuscrit et puis j'oubliais qu'il fallait que j'aie un regard critique parce que juste je lisais quelque chose qui m'intéressait. Quoi.
Alors pourtant, le regard critique, tu as réussi à l'avoir. Hein. quand même. Alors, moi, je tiens à vous dire, il faut que vous sachiez que le travail, moi j'ai découvert, hein, c'est mon premier livre, j'ai découvert le travail d'une éditrice avec Lucie. J'étais impressionné par la charge que c'est, parce que moi, je fournis de la matière, quoi, mais il y a tout un travail de mise en page, de clarification, enfin, c'est ouf. Et de temps en temps, enfin, j'ai en mémoire une fois, notamment sur la partie 3, où j'avais pondu un essai, quoi, où c'était où j'étais allé trop loin, trop avec trop de sources. Et c'est vrai que, tu vois, donc comme quoi on peut s'enflammer aussi sur un sujet et sortir un peu du cadre. Mais en même temps, c'était super intéressant d'apprendre à travailler là-dessus, à recentrer sa pensée, c'est un sacré exercice. Et donc, on parlait un petit peu là des concepts qu'on a vus. Est-ce qu'il y a un moment où... parce qu'il y a quand même quelque chose sur ce livre, sur ce projet qui m'a interpellé, c'est la rapidité avec laquelle il a été fait.
Ouais.
Parce
ouais.
que quand j'en parle autour de moi, parce que j'ai des amis qui ont déjà écrit des livres, ils m'ont tous dit « Attends, toi, t'as écrit le livre, Cédric, en 2 mois, et le projet, il a été plié en 4-5 mois, quoi. »
Eh oui.
Là, alors là, vous voyez pas la tête de tous les trois qui savons que nous avons été exténués en sortant de ce projet.
Ouais, je repense aux nuits blanches.
C'est vrai, putain, toi, t'as fait des nuits blanches. Hein. Oh là là. Moi, je voyais Blachette sur les réseaux qui de temps en temps, elle me taguait caché pour montrer qu'elle travaillait sur le truc, mais à minuit, à 1 heure, j'étais là, la pauvre. Mais toi aussi, t'as aimé travailler.
Oui. Ah oui, bah oui, grave. Moi, je pense que.
Toi, t'as turbiné comme une dingue, quoi.
C'est dur de ne pas le faire parce qu'on vous demande de beaucoup travailler. Donc forcément, nous, derrière, on fait la même chose. Et puis après, une fois qu'on l'a, on est content quand même.
Ah oui, non, mais grave, l'avoir devant nous, là, c'est un plaisir.
Ouais, j'avoue.
Surtout toi, Cédric, comme c'est ton premier.
Ouais. Ça m'a fait quelque chose, hein, tout à l'heure. Ouais. Parce que là donc, pendant qu'on enregistre, on est dans la pièce... avec tous les livres. Et c'est vrai que moi, quand je suis rentré tout à l'heure dans la pièce, que je l'ai pris dans les mains pour la première fois, ça fait quelque chose, tu vois. Quand je me suis retrouvé avec le livre tout à l'heure, j'étais là, waouh, ça y est, quoi. C'est là parce que, tu vois, même par rapport à la version PDF numérique, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Enfin, le tenir, le dessin, tourner les pages, tout ça, ça a l'air con, hein, ce que je dis.
Ah mais t'as raison, ça n'a rien à voir, hein, quand on le voit en numérique.
C'est ouf, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet, parce qu'il y a quand même dans la partie 4, on parle beaucoup de l'enfance et de l'enfant, est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont interpellé, notamment quand on parlait, quand on faisait des réunions, tu vois, sur le concept de continuum de violence, tu vois, parce que c'est un sujet qui nous a tenu, tu vois, ça a été relou quand même un peu le dessin sur le continuum.
C'était pas marrant à faire.
Ouais, c'est sûr.
Il y a plus plaisant, quoi, comme sujet.
C'est sûr, c'est vrai que l'illustration est pesante.
Ouais. Après, heureusement qu'on a fini avec des sujets un peu plus légers, entre guillemets, parce que j'en avais besoin.
Ouais.
Mais c'est vrai que cette partie-là, elle n'était pas marrante à dessiner. Bien qu'elle est très importante, donc obligée de le faire.
Ouais.
Mais ouais.
C'est quel dessin que tu as préféré faire ?
Bon, déjà, j'ai vraiment aimé faire la tête des papas en petite vignette. Et de plus en... Enfin non, je vais spoiler, mais par rapport au CERN...
Mais tu peux spoiler.
Plus on avance dans l'histoire, plus ces petites vignettes, les papas sont de plus en plus cernés. J'ai beaucoup apprécié les faire. Ça m'a bien fait marrer. Je rigolais toute seule devant ma tablette.
Il y a quand même un dessin, moi, que je trouve que tu as tellement... Il y a plein de dessins qui sont extrêmement réussis, mais il y a vraiment une expression. C'est celle du papa shooté pendant qu'il fait son
canard.
Ah
ouais, exact.
Elle est parfaite. Elle est parfaite. L'expression du papa défoncé à l'ocytocine pendant qu'il fait le câlin avec les petits cœurs et tout,
elle est juste
parfaite.
Non, et après, on a une qui m'a bien fait marrer, c'était le respect du consentement avec les bisous quand les enfants sont obligés de faire à des gens de leur famille, voisins, etc. Et l'illustration m'a bien fait marrer aussi. Parce qu'il y a une tendance manga un peu dans ce dessin-là.
Oui.
Parce que je suis une grande consommatrice de manga et du coup, on le voit et ça m'a fait marrer de...
Et justement, tu vois, le sujet du consentement aux enfants, les bisous, toi, en tant qu'adulte qui n'a pas d'enfant, c'est un sujet auquel tu avais réfléchi déjà ?
J'avais pas posé de mots dessus, mais je suis quelqu'un qui est traumatisé par la bise, les bisous, etc. Mais depuis que je suis petite, et moi, le fait que là, on ne puisse plus faire la bise, ben, je le vis très bien. Parce que je pense qu'il y a un trauma de quand j'étais jeune où on devait aller faire un bisou obligé à des grandes-tantes, grands-tantes qu'on ne connaissait pas forcément, obligé de leur faire la bise quand t'es gamin, t'as pas envie de faire bisous à des vieux que tu connais pas, enfin, sans paraître impoli parce que ça reste des gens de la famille, mais tu les connais pas, ou alors va dire bonjour au voisin, va dire bonjour à la voisine, t'as pas forcément envie, etc. Et c'est des trucs, j'étais touchée dans ce passage-là parce que je me suis reconnue, pour le coup, je m'attendais. Quand j'ai fait l'aventure pour ce livre-là, je ne pensais pas qu'il y aurait des sujets qui m'auraient projeté aussi également moi à l'enfance Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant et hyper... Enfin, j'en perds mes mots, mais voilà.
Mais ça me fait tellement plaisir que tu dis ça, parce que c'est exactement le but aussi, tu vois, de ces sujets-là, et aussi de la façon dont c'est écrit, c'est de permettre aux lecteurs, aux lectrices, et pour le coup, futur papa, de se projeter sur... Ouais, ok, comment est-ce que moi je l'ai vécu aussi, qu'est-ce que ça réveille chez moi, tu vois, aussi. Mmh. Et après donner des clés pour avancer, mais ouais, c'était cool. Toi, Lucie, il y a un sujet qui t'a, alors pour le coup pas choqué, mais qui t'a, je sais pas, interpellé, touché, pincé, t'as un passage préféré peut-être?
Il y en a beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, on parlait du consentement tout à l'heure, la manière dont tu abordes les choses et où tu prends des points clés, le lavage de nez, etc. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que je connais, mais ton point de vue et ta façon d'amener les choses et pourquoi ça peut être vécu comme quelque chose de désagréable et pourquoi est-ce que le parent est en droit quand même d'accompagner l'enfant et d'être là pour sa sécurité finalement. Ça, c'était quand même très intéressant d'avoir tous les points de vue, quoi. Parce que j'ai eu un petit peu peur aussi de me dire, quand on a commencé à en parler, de devoir... parler, bah, par exemple, du lavage de nez en disant « ne lavez pas le nez de vos enfants, attention, vous violez son consentement ». Et c'est pas du tout ton approche, et voilà.
Ouais, c'est pas mon approche, parce que je laisse les gens lire le livre, pour le coup. Même si je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est vrai que... Moi, là où je suis, tu vois, dans l'exercice, moi, ce qui m'a énormément plu, et en même temps, ce qui l'a rendu très difficile, je sais pas si tu te rappelles, la partie 4, je t'avais dit, putain, j'ai tellement de trucs à dire, je vais adorer la rédiger, enfin, j'ai adoré la rédiger, mais j'ai tellement de trucs à dire, et en fait, je pensais que ça serait la plus facile, tu vois, et ça a été une des plus difficiles, parce qu'en fait, j'avais tellement de choses à dire, mais il fallait trancher, tu vois, parce qu'il y a un nombre de caractères, il y avait des trucs, et il fallait trancher, et c'était pas évident. Mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti, tu vois, par rapport à la synthèse que ça donne à,
non,
après.
Bah, je l'ai pas vécu comme ça, du coup, quand j'ai reçu ton texte, parce que non, j'ai trouvé ça assez rapidement fluide aussi sur cette quatrième partie, où du coup, je savais pas que ça avait été compliqué pour toi de l'écrire justement, parce que tu m'as toujours dit que tu avais hâte d'écrire cette partie-là, et ensuite tu l'as écrit très vite parce que forcément c'était la dernière partie à écrire et qu'on était forcé par le temps. Et elle m'a paru très bonne assez vite. Donc du coup, je découvre que ça a été un peu compliqué.
C'est toujours... Mais en fait, j'avais aussi l'écueil de la troisième partie où j'avais fait un essai. Donc, tu vois, par exemple, sur l'historique des VO, j'ai supprimé 20 000 signes. Ah oui, alors on parle en signes pour le coup. Ouais, j'ai supprimé 20 000 signes, quoi. À la base, j'étais parti du néolithique. Donc si tu veux, comment tout ça avait influencé sur l'apparition des VO. Et le parallèle avec les VO, apparition du patriarcat en même temps, enfin voilà, tu vois, et en fait, quand je l'ai relu, je me suis dit, c'est intéressant, mais en fait, c'est lourd, quoi. Et c'était pas le ton du livre, tu vois, on a essayé de pas être dans ce ton-là. On a quasiment terminé, je vous rassure. Si vous deviez, attention, exercice très compliqué, si vous deviez décrire ce livre en 2-3 phrases.
C'est un livre qui est pour tout le monde et pas seulement que pour les papas.
Ok.
Exactement.
Elle a pris la facilité.
Non. Je rejoins Lucie. Un livre très bienveillant qui n'a pas de prétention à... qui n'a pas la prétention à dire ce que c'est la paternité. De dire c'est comme ça et pas autrement. Comme... on pourrait peut-être le penser ou je sais pas, mais qui plutôt, voilà, comme tu le décris toi aussi, qui accompagne, et pour le coup c'est vraiment ça, mais sans voilà avoir la prétention de dire c'est moi qui ai la sainte parole, etc. Donc et de très bons conseils bienveillants, je l'ai déjà dit, et super cool, les illustrations elles sont top à l'intérieur.
Et bien, je confirme, les illustrations sont top. Moi je tiens quand même à dire sur les illustrations que Et je dis pas ça parce que t'es là, hein, Blachette, mais mais vraiment, bah, en fait, en plus, Lucie peut en attester. Hein, j'ai toujours été très très enthousiaste de recevoir les planches qui arrivaient, de découvrir, et c'était, je trouve qu'il y a vraiment un trait, il y a, y a une dynamique d'entrée qui va bien au propos, en fait. Mm. Tu vois, c'est vraiment ce côté... Non, mais tu vois, c'est arrondi. Je trouve que ton trait, pour le coup, il est bienveillant. Tu vois, et tout. Enfin, tout se marie très bien. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien, cet épisode. Ça fait beaucoup de bien mon ego et à l'émotion que je ressens aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ce travail qu'on a réalisé tous ensemble.
Merci encore à vous pour votre confiance. Cool. C'était vraiment une belle aventure.
Ouais, merci aussi pour tout ce que vous avez fait. Franchement, bravo.
Bravo nous.
Bravo nous.
Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.